Apprenez-leur à garder mes commandements. En Matthieu 28, versets 19 à 20, on a le mandat missionnaire que tout le monde connaît, mais pourtant qui est beaucoup plus profond que ce que l'on voit d'habitude. Quand Jésus nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La dernière promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », montre l'action de l'Esprit. Nous recevons l'Esprit grâce au ministère de Jésus et c'est l'Esprit qui nous accompagne et qui nous aide à faire la volonté de Jésus. Mais quand il dit « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit », c'est d'une puissance extraordinaire parce que ça nécessite que nous-mêmes nous soyons véritablement disciples, c'est-à-dire que nous vivions l'ensemble de ces commandements, plus de 300, au quotidien, et que nous avons cette expérience à transmettre. Et ça, c'est la base. On peut traduire aussi à « apprenez-leur à garder mes commandements », mais j'aime bien « enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit », qui est une bonne traduction. Et effectivement, en Jean 8, 51, il nous répète « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais ». C'est-à-dire que le salut, c'est en fait expliqué très simplement dans ce verset, le salut dépend complètement de notre obéissance à l'ensemble de l'enseignement de Jésus. L'ensemble, tout, sans rien oublier. Effectivement, les réformateurs ont tout de suite oublié plein de choses, puisqu'on a dans l'histoire le principal catéchisme protestant, qui s'appelait le catéchisme de Heidelberg, au moment de la réforme. Il a retiré ce commandement de transmission pour ne garder qu'une petite partie, aller faire de toutes les nations des disciples, et les baptisants. Pourquoi ? Parce qu'ils en tirent un rituel, le baptême, comme chez les catholiques, que seul un ministère confirmé, entre guillemets, pouvait accomplir. Voilà, donc ce sont des rituels, des sacrements, des ministères consacrés, et on ne trouve plus, effectivement, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi ? Ben parce que dans l'Église, ça a toujours été très rapidement le retour des pharisiens, une sorte de pouvoir sacré, dominateur, et dicter sa conduite au peuple. C'est pour ça que Jésus leur reproche, en Matthieu 23, versets 3 à 4, « Ne faites point selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Or, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire, on transmet une expérience, nous vivons l'ensemble de la parole et nous transmettons cette expérience. » Et dès le départ, Jésus reproche aux pharisiens cette hypocrisie, qui les pharisiens enseignaient toute la journée, comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, mais on ne voyait pas les œuvres telles que Christ les attendait, c'est-à-dire telles que Dieu les attendait. Et il continue au verset 4, « Tandis qu'eux-mêmes, ils ne veulent même pas les remuer du doigt. » C'est-à-dire que « faites ça, mais eux-mêmes ne le vivent absolument pas. » Et c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut enseigner. Ça devient la préoccupation première. Et j'ai l'expérience dans l'Église des disciples, quand j'ai quelqu'un dont je ne vois pas les dons, s'exprimer, qui ne voit pas les fruits, je vois pas les dons, je vois pas la puissance de l'esprit et je vois pas les disciples, invariablement, il me dit, j'ai trouvé mon ministère, je dois enseigner. Voilà. À chaque fois, ils veulent enseigner, alors qu'à la base, c'est une expérience d'être disciple au quotidien, c'est-à-dire de vivre par les commandements de Jésus et donc de vivre la puissance de l'esprit. Par exemple, quand on parle d'enseignants, en fait, il y a très peu d'enseignants hommes dans la Bible, hein, véritablement, en termes de dons et de ministères. Quand on parle des docteurs de la loi, en Actes 13, versets 1 à 2, « Or, il y avait à Antioche, dans l'Église qui se trouvait, des prophètes et des docteurs. » Et je passe un peu et je continue. Certaines traductions disent « comme ils célébraient le culte ». Non, il n'y a pas de culte dans le Nouveau Testament, puisque le culte véritable, c'est le sacrifice de son corps tous les jours. On doit mourir à nous-mêmes pour suivre la parole de Jésus. Et en fait, la vraie tradition, c'est « ils servaient le Seigneur dans leur ministère », ce qui est plus juste. Et l'Esprit-Saint dit « mettez-moi à part ». Ça veut dire que les prophètes et les docteurs font la même chose, l'écoute de l'Esprit en permanence. Ça n'a rien à voir avec un docteur en théologie. La théologie, c'est la science des hommes. Plus vous êtes spécialisé en théologie, plus vous savez comment pensent les hommes, et moins vous savez comment pense Dieu, parce que c'est complètement antinomique. J'ai entendu hier un moine bénédictin, sympathique, alors j'écoute sa chaîne, qui a du succès, et il disait comment il faisait pour, dans sa vie de foi, alors il faisait à la façon des moines, hein, c'est-à-dire passer beaucoup de temps à réciter des psaumes, des choses comme ça, Et voilà ce qu'il disait. J'aime passer des heures à dire à Dieu que je l'aime. Parce qu'il récitait ses chapelets, ses psaumes, etc. Mais ce n'est pas du tout le commandement de Jésus. En Jean 14, 15, et vous le retrouvez sur notre livre PDF gratuit, les 200 paroles de Jésus, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est ça l'amour. C'est exactement comme si vous passiez tous les matins, vous faisiez une déclaration à votre conjoint disant que vous l'aimez avec un grand poème, des grandes phrases, mais qu'il n'y a aucun acte au quotidien. C'est de l'hypocrisie, véritablement. On est dans l'obéissance. C'est pour ça qu'on doit apprendre à garder les commandements à d'autres, puisque nous-mêmes, nous le faisons déjà. C'est évident pour Jésus. En fait, c'est même la base. C'est pour ça qu'en Matthieu 5, versets 19 à 20, par rapport au sermon sur la montagne, il nous dit « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés d'abord et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc il nous dit que si on est comme les pharisiens, voilà ce qu'il faut faire, et que nous ne voyons pas les œuvres de Jésus dans la personne, bien sûr, on échappe complètement au salut et à la Nouvelle Jérusalem, et c'est la situation actuelle, véritablement. Lors de la réforme protestante, les réformateurs ont placé en fait les prêtres, qui étaient, selon la doctrine catholique, représentants de Dieu sur terre, par des pasteurs, en disant « voilà, c'est pareil ». Et ils sont devenus, le pasteur est devenu, selon l'expression de l'époque, le général en chef de l'Église, alors que c'est Jésus, le chef de l'Église. En fait, le terme de pasteur en tant qu'homme, il apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est pas un hasard, hein, c'est dans les cinq ministères d'Éphésiens. Pourquoi? Parce que le pasteur, le bon berger, c'est Jésus. En Jean 10, 16, il est dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et elles entendront ma voix, et il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger, poimen. » Le vrai pasteur, c'est Jésus par l'Esprit. C'est pour ça qu'on ne doit pas se faire appeler directeur, et encore moins leader, parce que ce n'est pas nous qui devons être suivis. En fait, l'enseignement tel que nous montre le Nouveau Testament, déjà, ce n'est pas du tout le plus important, c'est de vivre en tant que disciple. Alors que dans les églises, on voit partout enseignement, enseignement. Faites ce que je vous dis, selon le modèle pharisien. Le don d'enseignement, c'est en fait le don de transmission de l'expérience divine. Moi-même, je vis les enseignements de Jésus au quotidien, la puissance de l'Esprit, et je transmets cette expérience-là. C'est absolument pas un exposé de connaissances, comme on voit partout. Et c'est vrai que ça a été la caractéristique de la théologie, la connaissance, la raison. Comme les universités du monde, les facultés de théologie sont basées sur ce modèle-là. Quand on regarde sur Wikipédia, l'enseignement est dit en fait un peu théorique, et ils disent bien que c'est l'opposé de l'apprentissage par la pratique. Alors c'est la deuxième partie qu'est le modèle des disciples. On apprend par la pratique, par l'imitation du modèle qu'est Jésus. On retrouve également dans les dons prosectomie, qui est le don d'être un modèle de foi, absolument pas un directeur ni un leader. En 1 Pierre 5, 2, 4, « Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous ». Paissez, ça veut dire quoi? On les aide à grandir par la parole, on les aide à suivre l'esprit. Mais ce n'est pas nous qui les nourrissons, on les aide. Non par contrainte, mais de bon gré, par dévouement, non en dominant, ne vous faites pas appeler directeur, sur ceux qui vont s'échouer, mais en devenant les modèles du troupeau prosaïtomie. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, voilà le vrai pasteur, vous remporterez la couronne de gloire qui ne peut se flétrir. On peut être également gardien de la foi, épicopos, c'est ça, évêque en fait, en acte 20, 28, 30, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi évêque, épicopos, pour paître l'Église des Seigneurs, ce n'est pas vous qui dirigez, ce ne sont pas les directeurs, c'est les aider à grandir en Christ. Car je sais qu'après mon départ, entreront parmi vous des loups dangereux qui n'épargneront point le troupeau, et que d'entre vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverties, afin d'attirer les disciples après eux. Voilà les leaders, voilà pourquoi on entend parler de leaders partout. Il n'y a pas vraiment de leader. Paul n'a jamais dit... suivez-moi, mais faites comme moi, parce que je suis à l'imitation du Christ, c'est tout à fait différent. On n'est pas leader, mais on entend partout des leaders, et on voit partout des enseignements, évidemment. Voilà l'enseignement de Paul, par exemple, en 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29. Il nous détaille toutes ses persécutions. Et il dit « Outre les choses du dehors, je suis assailli tous les jours par les inquiétudes que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible aussi. Qui est scandalisé, que je ne brûle aussi. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de ce qui regarde mes faiblesses. » Et il détaille un peu plus loin, en 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. « Trois fois à ce sujet, j'invoquais le Seigneur afin qu'il se retirait de moi. » Et il me dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt de mes infirmités, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il le vit et il nous apprend comment faire. Et c'est un enseignement qu'on a en Luc 18, versets 7 à 8. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne s'est-il pas rempli de longanimité à leur égard? Je vous dis qu'il leur fera justice promptement, seulement le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà l'enseignement de Jésus, et Paul nous apprend à vivre dans ses difficultés, mais à s'attendre à l'action de Dieu. Et vous voyez, l'articulation, le socle, la base qui est Jésus et la façon de le vivre, qui sont les épîtres, et en particulier de Paul. Et c'est ça, une transmission d'expérience. On l'a aussi avec Pierre, en Luc 18, versets 28 à 30. Et Pierre dit, « Voici nous, après avoir quitté nos biens, nous t'avons suivi. » Et il leur dit, « en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison ou femme ou frère ou parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qu'ils ne reçoivent beaucoup plus en ces temps-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et on retrouve dans l'enseignement de Pierre, cette expérience-là, 1 Pierre 4, 8, « Avant tout, ayez entre vous une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Il a vécu cette expérience d'avoir quitté tous nos biens, et il nous dit « Faites pareil, vos biens ne servent qu'au royaume de Dieu, à la charité, à l'amour de Dieu, et ne vous ouvre pas les portes du ciel, car la charité couvre une multitude de péchés. » Donc, ne soyez pas attachés à vos biens, faites la charité à ceux qui en ont besoin, et vous grandirez. Donc, cet enseignement vient toujours d'une expérience. Et l'évangélisation, c'est pareil. L'évangélisation, c'est une transmission d'expérience de l'Esprit-Saint qui s'acquiert en grandissant l'image de Jésus, en suivant tous ses commandements. C'est tout ce que nous faisons dans l'Église de disciples. C'est pour ça qu'en Actes 1, 8, il est dit « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, et dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire qu'être témoin de Jésus, c'est avoir cette expérience de la puissance de l'Esprit, c'est être rempli de l'Esprit-Saint comme lui. C'est ça, être témoin. Et on le voit en Actes 8, versets 13 à 17. « Or Simon lui-même crut, Simon le magicien, et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe, et voyant les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Et les apôtres arrivent, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étaient arrivés, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent l'Esprit-Saint. Alors ils leur imposaient les mains, et ils recevaient l'Esprit-Saint. Ils transmettent ce qu'ils ont reçu. » Transmission d'expérience, transmission de l'expérience de l'Esprit-Saint, puisqu'on est à l'imitation de Jésus. En Actes 8, 25, il y a « Eux donc, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, retournés à Jérusalem et évangélisés beaucoup de villages des Samaritains. » Donc, rendu témoignage, on témoigne de cette expérience de l'Esprit-Saint. De cette expérience de l'Esprit-Saint parce qu'on est comme Jésus, et donc on doit voir comme Jésus. En Actes 8, versets 4 à 5, il est dit « Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. » Et qu'est-ce que cette bonne nouvelle de la parole? Et là, on retrouve Philippe, puisque c'est les passages qui sont précédents. Philippe leur prêchait le Christ, et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Ainsi, quand on ne voit pas Christ à l'œuvre, dans la personne, il n'y a pas de témoignage. C'est véritablement une transmission d'expérience de l'Esprit-Saint. On l'a dans des passages qui sont très connus, juste après la Pentecôte, en Actes 2, versets 14 à 19, quand Pierre annonce à ceux qui étaient témoins de cette puissance de l'Esprit à l'œuvre, Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur dit « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, que ceci vous soit connu, et écoutez avec attention mes paroles, ces gens-ci ne sont point ivres, Car c'est la troisième heure du jour, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera dans les derniers temps, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Et donc, on voit dans cet exemple-là que ce qu'il nous montre, c'est une attente. Le peuple juif était en attente de cette prophétie de Joël qui s'accomplit. Ça veut dire que, un, on est dans la fin des temps, aujourd'hui, même si beaucoup disent ils attendent le réveil, c'est déjà fait depuis longtemps, en fait, pour ceux qui sont prêts à recevoir l'Esprit. Et deux, il y a un certain contexte, effectivement, dans ces exemples, où ils attendent la réalisation de la prophétie de Joël. Aujourd'hui, vous pouvez dans n'importe quel pays, il y a plus grand monde qui attend la réalisation de la prophétie de Joël. Donc là aussi, il y a un certain contexte. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que ça veut dire véritablement, c'est cette transmission d'expérience, donc il est vital d'être soi-même disciple. En Actes 3.6, Pierre aussi. Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai point, mais ce que j'ai, je te le donne. On donne cette vie dans l'esprit que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, de Nazaréen, marche. Et en Actes 4.4, mais beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus le faire, puisqu'il n'y a plus personne qui attend le Messie comme dans l'Ancien Testament, mais on peut toujours, bien entendu, faire selon la volonté de Dieu, évangéliser selon l'Esprit, véritablement. Donc, on sait bien qu'on a un contexte juif, et on le voit en Actes 12, versets 32 à 33, et nous aussi, nous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse faite au Père, que cette promesse, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, ayant ressuscité Jésus, comme il est écrit dans le psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». On est bien à un contexte particulier. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la transmission de l'expérience de l'Esprit-Saint. Quand Jésus nous dit en Marc 16,15, « Allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature », c'est pas faire de la publicité pour Jésus, c'est véritablement selon la puissance de l'Esprit, puisqu'en Marc 16, versets 19 à 20, « Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé dans le ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux, confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Ce n'est rien de la publicité pour Jésus. Tout est fait selon ce que nous avons reçu de l'Esprit, et ce que nous avons reçu de l'Esprit est directement proportionnel à notre obéissance à Christ, à notre niveau de disciple. Et voilà ce qu'est l'enseignement, cette transmission d'expérience.